Bonjour à tous, chers auditeurs. Petit changement d'habitude cette semaine avec une émission coup franc mise en ligne plus tard que de coutume, mais c'était pour la bonne cause puisque la finale du tournoi MLS Swiss Back a eu lieu ce mardi. Nous voulions attendre qu'elle ait été jouée pour vous en parler. Ce sera un des sujets principaux au menu du jour, largement consacré au tournoi MLS Swiss Back, une parenthèse qui se referme, mais une saison qui a déjà bien repris puisque dès ce mercredi, Dallas et Nashville se sont affrontés. Pendant ce temps, tout le Canada du ballon rond prend son mal en patience en comptant les millions mis sur la table pour Jonathan David. Mathias Van Alst au micro et cette semaine, je dois commencer par m'incliner devant Quentin Parisis, le seul membre de l'équipe à l'antenne la semaine dernière qui avait fait le bon pronostic et trouvé le nom des deux finalistes. Salut Quentin et bravo.
Merci mon cher Mathias, tant d'honneur, je m'y attendais pas. Alors merci beaucoup, ça fait plaisir d'entendre ça, ça fait plaisir de vous retrouver, ça fait plaisir de retrouver tout le monde, de jaser soccer. Et puis une fois n'est pas coutume, ça fait quand même plaisir d'avoir le bon pronostic, c'est pas toujours quand même, hein. Il faut rester un petit peu humble.
Ah, ton humilité nous touche, Eric a-t-il la même? Oui. Il est à nos côtés, il vous a beaucoup manqué la semaine dernière, même si on a reçu pas mal de messages pour féliciter Eve de sa première à l'émission. Le seul, l'unique, Éric Chenois. Salut Éric.
Salut Mathias, je commence d'emblée en remerciant Eve dont tu viens de parler, qui m'a relevé, ma foi, fort brillamment. Et il faut souligner la première participation féminine à coup franc, si je ne me trompe pas. Donc, merci à elle. Et bien de discuter avec vous de cette finale. Et parlant de finale, il y en aura une ce week-end à laquelle vous pourrez assister si ça vous intéresse. Une finale en PLSQ féminine entre Blainville et Fabrose. Blainville qui a, disons-le, complètement défoncé Fabrose mercredi dernier 5-0. Alors ça s'annonce fort palpitant. C'est samedi à 14h à Bois de Boulogne, aussi connu sous le nom de Terrain de la Fédé ou Stade des Jardins, selon les occasions.
Sens unique à Bois de Boulogne, voici le programme du week-end. En attendant, une émission coup franc qui est possible, comme vous le savez, grâce à la collaboration de membres des rédactions d'ImpactSoccer.com, Vieux-Parc et Québec Soccer, bien sûr, grâce à la vôtre, toujours à l'écoute que votre équipe favorite soit en action ou non. Et au cours de la semaine écoulée, peu importe votre club favori parmi les 26 qui jouent en MLS, les chances de le voir sur le terrain étaient quand même assez faibles, puisqu'on était dans la dernière ligne droite du tournoi MLS Is Back. Comme vous le savez, Portland s'est imposé 2-1 en finale contre Orlando. Et pour notre traditionnelle question en un mot, on vous a demandé ce qui a fait la différence lors de ce match.
Mon mot, c'est organisation. Et par là, j'entends l'organisation non seulement défensive de Portland, mais l'organisation, le système, les fonctions de tous les joueurs. On a remarqué une équipe de Portland très, très, très disciplinée, très concentrée sur le travail à effectuer. On sentait qu'il y avait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexion derrière cette préparation-là. Et on sentait que chaque joueur avait un rôle précis pour faire tourner la machine. J'ai trouvé ça fort intéressant. C'était quand même très beau et très intéressant à regarder.
Alors moi, mon mot, ce sera cynisme. Et je m'en explique, c'est cynisme au sens d'anti-romantique, l'opposé de romantique. Parce que tous autant qu'on était, en tout cas, pour ma part, et puis autour de la table à coup franc, etc., on avait dit la semaine dernière qu'on aimerait une finale Philadelphie-Minnesota, et je l'avais aussi souligné, même si j'avais prévu plutôt une finale Orlando-Portland, et c'est ce qui s'est passé. Et là, c'est un peu le même principe sur la dynamique, sur ce que Orlando nous a procuré comme plaisir, comme étonnement au cours du tournoi. J'avoue que j'aurais eu un faible pour une victoire d'Orlando, mais ça, c'était une vision romantique du soccer. Et malheureusement, de plus en plus, le soccer est d'une froideur incroyable. En tout cas, il est implacable. Et c'est souvent les équipes les plus expérimentées, les plus organisées, comme tu l'as souligné, Eric, qui l'emportent. Et c'est sûr que Portland a beaucoup plus ce profil-là. Et donc, c'est une victoire qui était attendue, mais qui brise un petit peu le côté romantique du foot tel qu'on aurait voulu le voir ou qu'on aurait aimé, etc. Mais c'est d'une logique, pour moi, c'est d'une logique implacable, cette victoire d'Orlando.
Finalement, Quentin, tu nous dis que dans la canicule floridienne, le grand gagnant, c'est la froideur.
Oui, monsieur.
C'est ça, ça ferait un très bon titre, je trouve, et c'est une très bonne formule. De mon côté, le mot, c'est pas hyper original, c'est défense. Alors, Portland a beaucoup défendu, a bien défendu. Zubac, c'est mon homme du match, et en plus, il a marqué. Parce que faut dire que Portland a eu du mal à se créer des occasions autrement que sur des phases arrêtées. Et ce sont deux défenseurs qui ont trouvé le fond des filets, alors qu'à Orlando, justement, l'apport des défenseurs a été bien moins efficace. Donc, oui, c'est la défense qui a fait la différence. Pas seulement par les gestes défensifs, mais aussi par les gestes offensif. Alors parmi vos réponses, on a eu entre autres expérience de Lucie Côté, sud-américain de Matt Eve ou concentration de Stéphane Alpin. Vous en avez déjà parlé un petit peu de ce que vous avez pensé de la finale, mais pour commencer la discussion sur le sujet, j'aimerais justement savoir ce que vous avez pensé du niveau d'ensemble de cette rencontre. Est-ce que c'était agréable à voir?
Ouais, pour moi, sans aucun doute, c'était. Je me suis fait la réflexion en fait à plusieurs reprises pendant le match. Je regardais vraiment un match de foot. C'était pas décousu, c'était pas du n'importe quoi comme on peut voir avec certains clubs en MLS. C'était bien organisé, c'était bien joué, c'était bien exécuté la plupart du temps. Bon, ça reste là. MLS, donc il y a eu quelques errements, c'est sûr, mais point de vue tactique, point de vue système en place et tout ça, c'était super intéressant à regarder. Moi, ça m'a procuré quand même pas mal de plaisir.
Moi aussi, j'ai trouvé que c'était un bon match. J'ai trouvé qu'il y avait aussi beaucoup de rythme. On parlait de la chaleur juste avant, etc. Puis sur ce genre de match, ça s'est pas vu. J'ai bien apprécié ce match-là. Et je dois même dire que sur les derniers matchs, en fait, sur la seconde phase du tournoi, j'ai trouvé que globalement, les matchs étaient très bons. C'est aussi ce qui m'a un peu rassuré et ce qui me fait rire aussi quand je lis les pourfendeurs de la MLS à droite, à gauche, sur les réseaux sociaux, etc., qui trouvent que la MLS demeure un championnat de seconde zone. Je trouve que c'est de moins en moins vrai, au moins sur les bonnes équipes, en tout cas que ce soit les bonnes équipes traditionnelles, on va dire, ou les bonnes équipes du moment, comme a pu l'être Orlando, parce que évidemment ça va demander confirmation. Mais globalement, j'ai trouvé que j'ai été agréablement surpris de cette finale et globalement du deuxième tour de ce tournoi.
Ouais, et puis pour rajouter à ce que tu viens de dire, Quentin, premièrement, Orlando qui a un nouvel entraîneur et qui a un nouveau système et qui a de nouvelles habitudes et avait commencé sa saison assez difficilement à confirmer tout au long. Et pour avoir un bon match, il faut deux bonnes équipes sur le terrain, deux bonnes équipes bien organisées aussi. Eric, tu l'as souligné dans ton mot et c'était le cas. Et je rajouterais, pour appuyer ton autre point, qu'on a vu, plus le tournoi avançait, plus les matchs étaient bons, à mes yeux aussi, et moins les équipes changeaient. On avait dit en début de tournoi qu'il y aura beaucoup de rotations dans les 11 de base, notamment avec le fait qu'il y ait 5 changements possibles. Et finalement, à partir des 8e de finale et surtout des quarts, les entraîneurs ont aligné les mêmes 11, même s'il n'y avait pas tellement plus de jours de repos qu'avant, et qu'il faisait quand même chaud et les conditions étaient quand même toujours aussi difficiles. Et on a vu les automatismes se remettre en place et ça donne aussi un petit peu raison à Thierry Henry qui parlait de matchs un peu d'avant-saison pour le premier tour surtout. On a vu qu'à ce moment-là, il y avait plus de changements, plus d'essais, plus de tâtonnements qui étaient faits dans beaucoup d'équipes, pas toutes, il y en avait qui étaient quand même déjà sûres de leur fait, mais que plus le tournoi avançait, moins c'était le cas et plus on se rendait compte qu'on était dans une véritable compétition, dans une véritable saison. Est-ce que, là on a parlé du niveau du match, tout à l'heure on a parlé de ce qui a fait la différence, est-ce que selon vous il y a eu des moments qui ont été un tournant de ce match-là?
Moi ce qui m'a frappé en fait c'est en début de match on a vu Orlando se lancer à l'assaut du but adverse un petit peu comme il l'a fait contre l'Impact, sauf qu'après 10 minutes ça a cassé net. Et là, Portland a commencé à prendre le dessus, sans être toutefois menaçant. On a vu qu'ils sont quand même revenus au niveau notamment de la possession de balles. Et ça m'a donné l'impression que peut-être que Orlando, à force de jouer comme ça, c'était peut-être un petit peu alourdi les jambes au fil du tournoi. Donc, je me demande si, au-delà d'un moment du match qui a fait la différence, je me demande si c'est pas plutôt l'approche d'une des deux équipes qui a joué contre elle, en fait. En ce sens qu'Orlando a peut-être laissé trop de morceaux sur les terrains avant la finale, puis manquait peut-être un petit peu là, d'énergie sur la fin.
Ben oui, c'est ce qu'on a dit finalement au long du tournoi sur Orlando, c'est que Orlando jouait quand même sur l'enthousiasme. Évidemment, il y a de la qualité, puis ils ont quand même un potentiel offensif très intéressant à Orlando, mais c'est pas encore une équipe qui est rodée pour jouer les premiers rôles et pour aborder des échéances telles que celle de la finale et une place en Ligue des Champions, parce qu'il faut quand même pas oublier qu'il y avait un enjeu derrière. C'est sûr que on n'a pas senti Orlando annihilé, mais comme disait Eric, peut-être que ils ont peut-être oublié sur certains instants que c'était 90 minutes le match et que jouer sur l'enthousiasme et l'énergie, etc., comme ils l'ont fait au long du tournoi, au-delà des qualités qu'ils ont montrées sur le terrain, mais c'est quand même, en tout cas à mes yeux, un élément majeur qui explique le parcours d'Orlando. Il y a eu une gestion du match peut-être un peu moins précise, un peu moins chirurgicale du côté d'Orlando.
Ouais, et puis on avait parlé la semaine dernière aussi de la confiance qu'Orlando avait, et qu'une des clés pour un petit peu mettre le doute dans cette équipe, c'était justement de la faire se poser des questions. Et j'ai l'impression que Portland est quand même arrivé à jouer dans la tête des joueurs d'Orlando, notamment en neutralisant les arrières latéraux, Juan à droite et Moutinho à gauche, qui ont eu beaucoup, beaucoup moins de poids que d'habitude. Hein, souvenez-vous par exemple le match contre Montréal où ils montaient de concert, où après il y avait Nani Pereira qui était, on va dire, à leur côté, mais entre l'axe et la ligne de touche. Et au milieu, il y avait Akindele. Et donc, il y avait vraiment du monde un petit peu qui arrivait d'un petit peu partout. Et là, Portland, ils ont réussi à contrer ça, notamment avec un entrejeu qui a beaucoup travaillé. Et en plus, je pense que c'était ça. La stratégie de Portland, l'objectif c'était vraiment de neutraliser l'adversaire, neutraliser certains joueurs en particulier, parce que neutraliser tout le monde c'était pas possible. On a vu que certains joueurs ont été quasiment invisibles, on reparlera de prestations individuelles un petit peu plus tard. Et donc Portland a réussi à faire cette différence là, et plus le match avançait, plus on voyait Orlando chercher des solutions et ne pas en trouver. Maintenant, tout à l'heure je parlais de tournant du match. Il y a aussi eu des moments un petit peu, pas polémiques, parce qu'on n'en a pas parlé longtemps, mais quand même, notamment en début de rencontre, un coup de coude de Chara, que selon vous, ça valait un carton rouge, et tant qu'on est à parler des cartons rouges et des fautes qui auraient pu valoir peut-être une exclusion, on peut aussi parler du pied levé de Juan ou de la faute de Moutinho sur le Ria qui aurait pu aller seul au but. Est-ce que selon vous, 1, 2, 3 ou 0 carton rouge là-dessus, et pour qui?
Ah, pour moi, 0. Le coup de Chara, pour moi, il est donné en premier sur l'épaule, et puis après ça, ça dévie sur le visage de l'adversaire. Je pense pas qu'il y ait vraiment d'intention d'aller mettre un coup en pleine tranche comme ça. Donc, je pense que pour moi, le jaune aurait été suffisant. Je crois pas qu'il en ait reçu un sur la séquence.
Il n'a rien eu.
Il n'a rien eu, c'est ça. Donc, ça méritait un jaune, selon moi. Mais encore là, c'est même le jaune est discutable, à mon avis. Donc, pas vraiment de scandale là-dessus, pour moi. Le pied levé de Juan, encore là, pour moi, c'est un carton jaune. C'est pas un carton rouge. Tu vois qu'il va vraiment pour le ballon. Puis, Valérie va aussi pour le ballon. Donc, forcément, à un moment donné, ça se rapproche, quoi. Donc, mais je pense pas qu'il y ait vraiment d'intention autre que jouer le ballon. Donc, pour moi, un rouge, ça aurait été vraiment trop sévère. Et puis la dernière faute, je me suis dit sur le coup, je me suis dit bon, ouais, rouge, ça serait logique. Et puis après avoir vu la reprise, il y a quand même un défenseur qui couvre déjà, donc il n'y a pas vraiment d'occasion, de grosse occasion nette, franche et évidente qui se dessine. Donc il y avait encore une intervention qui se préparait. Donc pour moi, ça a été arbitré correctement. Puis je vais vous dire, j'ai eu cette impression tout le long du match que c'était quand même bien arbitré, que c'était logique, que ça se tenait. Donc pour moi, non, pas vraiment de scandale arbitral.
Mais sur la cohérence de l'arbitrage, je peux te rejoindre. Après, bon, moi, je trouve que le pied, il est quand même pas mal. le pied, il est quand même assez haut. Hein. Moi, ça m'a quand même un petit peu chiffonné. Mais au moins, c'est ça. L'arbitre a eu le courage d'être cohérent dans ses choix. Il a pas mis de rouge. Il a pas sorti les cartons à tort et à travers. Et puis, au final, le match s'est pas quand même déroulé dans une ambiance délétère. Évidemment, il y a eu quelques accrochages, quelque chose. Mais je veux dire, on n'a pas senti, le match a pas non plus tourné au vinaigre et pas devenu haché, etc. Donc au final, c'est quand même le rôle de l'arbitre de maintenir une ambiance convenable sur le terrain et assurer le bon déroulement. Et de ce point de vue-là, ça a été réussi. Après, est-ce qu'il aurait pu sortir le carton sur de telle ou telle action? Ça, je pense. Je l'ai dit sur le pied, peut-être que les autres ça aurait pu l'être aussi, mais au final, il n'y a pas eu d'impact négatif de l'arbitrage, soit trop laxiste, soit trop dur sur le déroulement du match, et donc de ce point de vue-là, je te rejoins, je trouve que ça a été donc bien arbitré.
Oui, ça a été bien arbitré, comme l'ensemble du tournoi d'ailleurs, à quelques exceptions près, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais n'empêche, je trouve que moi, Chara s'en sort très bien sur son coup de coude. Pour moi, c'était jaune-orange, mais c'est au moins un jaune, et le fait qu'il ait reçu une autre jaune plus tard, ça change, je pense, beaucoup le match, parce que après ça, vu qu'il a rien reçu, Chara a quand même multiplié les fautes, et honnêtement, s'il avait déjà eu une jaune, peut-être qu'il se serait comporté autrement, peut-être que ça aurait fait évoluer le match, ou alors il s'en serait peut-être pris une deuxième au moment où il a pris l'autre, et donc ça aurait pu faire évoluer ça. Mais comme tu l'as dit, Quentin, et là je suis totalement d'accord avec toi, on ne peut pas dire non plus que l'arbitre a influencé le match, très 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 loin de là. Et Monsieur Elfat d'ailleurs, qu'on a beaucoup vu pendant ce tournoi, qui est un des arbitres qui monte en MLS, qui a eu, comme dans l'ensemble des arbitres lors de ce tournoi-là, un assez bon match. Je veux revenir à quelque chose dont, Eric, tu as parlé tout à l'heure dans ta réponse en un mot, c'est le mot organisation, parce que je sens que tu as encore beaucoup, beaucoup de choses à dire à ce sujet-là, et que c'est vraiment quelque chose qui t'a marqué lors de cette rencontre.
Ce qui m'a frappé aussi en cours de match, c'est que j'ai fortement l'impression que les deux milieux latéraux de Portland, Loria et Williamson, c'est ça? Je pense qu'ils avaient vraiment reçu la directive de s'assurer que personne aille s'insérer entre la ligne de défense et la ligne des milieux. On sait que Chris Muller, entre autres, c'est là qu'il gagne vraiment son pain et son beurre, donc toujours en train de se foutre là dans cette espèce d'espace, ce no man's land là, recevoir des ballons et les distribuer. Ça a été coupé dès le début du match, et puis à plusieurs reprises, j'ai remarqué autant Williamson que Loria regarder par-dessus leur épaule puis s'assurer qu'il n'y ait personne derrière eux, plutôt que d'être attiré par le ballon, ils regardaient continuellement derrière eux pour s'assurer vraiment de pas se faire prendre à revers. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant, et ça a vraiment très très bien fonctionné. D'ailleurs, on n'a pas vraiment vu Nani qui avait pas vraiment personne pour jouer avec lui de ce côté-là. Le seul qui s'en est vraiment bien tiré, je trouve, c'est Pereira, mais pour les autres, ils ont été un petit peu, je vais dire, tués dans l'œuf, quoi.
Avant de céder la parole à Quentin à ce sujet-là, je rajouterai aussi Blanco à ta liste, qui a eu exactement le même comportement que les deux joueurs que tu as cités, qui a beaucoup défendu, qui a été allé rechercher des ballons très très bas. On parle beaucoup de son influence offensive, mais son travail défensif était pas mal du tout non plus hier.
Ouais, tout à fait. J'ai adoré son match. En fait, pour moi, c'est le joueur du match, sans aucun doute. Je pense que dès les premières minutes, il était alerte, il était efficace. Vraiment, fort match de sa part.
Portland m'a quand même, c'est pas impressionné, mais disons qu'ils ont fait du Portland et ils ont fait ce qu'on attendait d'eux. C'est quand même une équipe qui a été, qui collectivement a répondu présent, je trouve, sans faire un match immense, sans peut-être même dégager d'immenses individualités sur ce match-ci, même si évidemment il y a des joueurs qui ont fait des meilleurs matchs que d'autres, mais c'est une espèce de sérénité et de certitude de leur force qui m'a impressionné sur ce match-là, et la façon d'appréhender le match, les buts, en fait l'expérience du haut niveau et l'expérience des matchs importants à enjeu, etc., s'est révélée. Je l'avais déjà évoqué, puis je trouve que ça s'est encore vu là. Il suffit de voir le but sur coup franc, le but de Mabiala. Le coup franc est tiré magistralement, il est imprenable pour le défenseur, imprenable pour le gardien. Il est fuyant, etc. Enfin, en tout cas, il arrive parfaitement sur la tête de Mabiala. Et c'est justement dans les matchs un peu couperés qu'on sait aussi l'importance des coups de pied arrêtés. Et sans surprise, finalement, Portland a marqué sur coup de pied arrêté. Et pour moi, c'est comme un symbole, finalement, ce premier but-là. Parce que dans les grands rendez-vous, c'est des éléments importantissimes. Et puis, à la fin du match, ça s'est révélé parce que Orlando est revenu quand même, a marqué, etc. Et donc, ce but a fait la différence à mes yeux. C'est en tout cas, collectivement, j'ai été impressionné par Portland.
Et de mon côté, j'ai aussi été impressionné collectivement par l'organisation d'Orlando parce que, c'est clair que vous parlez de Portland, on parle plus facilement des vainqueurs, mais les vaincus n'ont pas été mauvais, loin de là, et on parle d'organisation défensive. Et moi, ce qui m'a impressionné du côté d'Orlando, c'est qu'ils défendaient très bien en ayant le ballon. Portland n'arrivait pas à se reconvertir rapidement, Portland n'arrivait pas facilement à s'organiser pour gagner la bataille de l'entrejeu et pour s'installer dans le camp adverse, même s'il y avait aussi une certaine volonté de défendre davantage et de laisser le ballon à l'adversaire. Et je trouve que c'était très intéressant ce qu'on voyait de la part d'Orlando. Les joueurs étaient placés en fonction de ce qu'ils voulaient faire avec le ballon, mais ils étaient aussi déjà prêts à agir en perte de balle. Et évidemment, vous allez me dire, ouais, mais toute bonne équipe est censée faire ça. Mais une équipe qui vient de changer d'entraîneur, avec une longue pause à cause de la pandémie et qui joue beaucoup pour le moment sur son enthousiasme, ça reste quand même assez impressionnant après un aussi court laps de temps. Et de nouveau, ça demande confirmation, évidemment. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui doit être assez encourageant pour la suite pour Orlando, parce qu'ils l'ont fait peut-être pas depuis le tout début du tournoi, mais c'est quelque chose qu'on a vu quand même et qu'on a vu de plus en plus précisément match après match à Orlando, et ça doit les encourager pour la suite. Et donc je voulais quand même signaler ce point là donc finalement les deux équipes ont bien défendu et c'était pas un match extrêmement offensif d'ailleurs. Pour rajouter à ce que vous avez dit par rapport à l'organisation de Portland, Clark, il n'a pas beaucoup été mis en danger, hein, le gardien, alors que lors d'autres matchs, il a dû faire face à quelques tirs, il n'a pas toujours été à l'aise. Peut-être qu'Orlando aurait peut-être dû essayer un petit peu d'autres choses, mais ça, de nouveau, peut-être qu'ils sont restés dans leurs habitudes et dans ce qu'ils savent faire, parce que c'est déjà bien d'avoir un bon plan A offensif, un bon plan A défensif aussi quand même, mais les plans B, ils n'en sont peut-être pas encore là.
Il y a un point sur lequel je voudrais revenir, Mathias, que tu as évoqué, c'est la confirmation d'Orlando. Justement, c'est la réflexion que je me faisais, quel sera l'impact de cette défaite pour la suite pour Orlando, parce que on sait c'est un contexte particulier, c'était un tournoi, ils ont joué sur l'enthousiasme, même s'ils ont ils ont montré des choses sur le terrain, mais on a déjà évoqué cette question-là. Ils étaient à quelques centimètres là de la Ligue des Champions. C'est évidemment très compliqué pour quand même une équipe américaine d'accéder à la Ligue des Champions, plus compliqué que pour une équipe de MLS canadienne. Il faut quand même le souligner, parce que le championnat canadien est quand même une voie très rapide pour la Ligue des Champions. Et je ne sais pas dans quelle mesure Orlando aura forcément l'occasion d'avoir une telle occasion, du moins, d'être si proche de la Ligue des Champions. Et je me demande comment ils vont se relever de cette défaite qui doit quand même être difficile à encaisser, parce que c'est sûr qu'il y avait de l'espoir du côté d'Orlando. Je me demande, est-ce qu'ils vont garder en tête le positif de ce tournoi-là et donc se focaliser finalement sur le long terme et sur la base qu'ils ont construite lors de ces dernières semaines, ou alors un petit peu accuser le coup de cette défaite et de finalement tout un long chemin à refaire pour recôtoyer les sommets. C'est vraiment une question qui m'a interpellé et qui va m'intéresser sur la suite pour Orlando.
Moi, j'ai peut-être une partie de la réponse, en fait, parce que moi, la réflexion que je me fais, c'est qu'en fait, les grands gagnants de ce tournoi-là, c'est Orlando, pour moi. Parce que avant le tournoi, c'était une équipe dont on ne parlait pas, dont on ne tenait pas vraiment compte dans l'Est. Et elle ressort de ce tournoi-là en étant, c'est un pion qui pourrait éventuellement tirer son épingle du jeu, quoi. Donc, ils ont gagné en crédibilité. Maintenant, je pense qu'il y a personne qui va les regarder de haut, absolument pas. Alors que il y a un mois et demi, on n'en parlait pas, et puis c'était pas vraiment c'était pas vraiment des paramètres à prendre en compte dans l'Est. Donc maintenant ils sont là. Et puis tant mieux pour eux, même si je déteste le mauve, mais tant mieux pour eux.
Je rajouterai un élément aussi dont on a très peu parlé. D'ailleurs, à Montréal, on n'en a pas parlé du tout, alors que aussi, il y a un nouvel entraîneur, il y a de nouveaux joueurs. C'est l'influence qu'a eu le fait d'être ensemble pendant un mois, dans le même étage d'un hôtel, en fait, parce que tout le monde était là et ils n'ont même pas pu côtoyer d'autres gens que les gens de l'équipe. Sur l'ambiance dans l'équipe, il y en a où ça n'a peut-être pas fait du bien, je pense peut-être à Atlanta, mais il y en a d'autres chez qui ça a certainement eu une influence, notamment les clubs qui ont un nouvel entraîneur ou qui ont changé beaucoup de joueurs. Et Orlando en fait partie. C'était finalement un méga stage de préparation aussi, en plus, ce tournoi. Et Orlando, pour amener mon élément de réponse, c'est qu'ils ont progressé en un mois comme ils auraient dû ou voulu progresser peut-être en une demi-saison. Donc le stade où ils sont arrivés après 5 matchs de saison régulière finalement est celui où ils pensaient être après 15-20 matchs. Donc ils ont une grosse dizaine de matchs, voire plus d'avance sur leur plan de la saison. Donc je pense que ça va quand même les conforter et ça va compenser la tristesse d'avoir perdu en finale.
Je suis pas si convaincu que ça. En fait, je dis pas que ça, c'est pas comme ça que ça va se passer, parce que c'est tout à fait possible. Simplement, le contexte particulier et puis le format du tournoi m'incite peut-être à un peu plus de prudence, ou en tout cas me fait poser plus de questions sur la suite. En fait, c'est plus, je suis curieux de voir ce que ça va donner Orlando, en fait.
Revenons à la finale et aux vedettes aussi. On avait dit que cette finale permettrait peut-être de départager Blanco ou Nani pour le titre de meilleur joueur du tournoi. Alors, je ne vais pas vous poser la question à ce sujet-là. Je trouve que dans ces deux équipes, en fait, il y avait aussi de la concurrence entre vedettes. Évidemment, une concurrence saine, parce que chacun essaye de se mettre au service de l'autre. Mais à Portland, je pense que c'est clair et évident depuis le début du tournoi. Tout le monde a toujours parlé de Valérie, et là, c'est Blanco qui s'est mis en valeur. Mais à Orlando, si Nani a beaucoup brillé lors du tournoi, beaucoup de monde a aussi découvert Pereira, qui était un des hommes du match, peut-être le meilleur joueur de son équipe ce mardi.
Dans cette finale-là, j'ai vraiment découvert Pereira. Je pense qu'il m'a vraiment surpris. J'en avais entendu parler, je l'avais vu un petit peu, mais sur ce match-là, je l'ai trouvé vraiment bien en jambes, intelligent, belle vision du jeu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient Nani dans cette finale, mais c'est plutôt Pereira qui s'est pointé, comme je le disais tantôt. Donc, ça démontre quand même que ce gars-là a des capacités. Surtout qu'avec le dispositif que Portland avait mis en place, c'était justement le type qui aurait normalement dû avoir le plus de difficultés à se démarquer. Et pourtant, on ne voyait que lui. Donc, joueur fort intéressant. Je vais le surveiller.
Ouais, et puis en plus, il a vraiment bien tiré son épingle du jeu dans les moments difficiles. Tu parlais de sa vision du jeu, de sa vista. Il fait des bonnes passes, il est souvent bien placé, sa technique est au-dessus du lot. Mais moi, ce qui m'a marqué aussi, déjà un peu pendant le tournoi, mais surtout hier, c'est sa combativité, parce que les autres aussi l'ont découvert, hein. Et puis Portland, souvent, ils s'y sont pas pris avec le dos de la cuillère pour essayer de l'arrêter. Et chaque fois, Pereira, s'il trébuchait, ben, il continuait, il essayait toujours de remettre le pied sur le ballon. C'était pas, j'essayais de dribbler, ben, il y a quelqu'un qui touche le ballon, fini, c'est perdu. Non, il continuait. Et j'ai trouvé ça aussi assez impressionnant. Et c'était aussi très intéressant de le voir là-dessus. Et comme tu l'as dit aussi, Eric, il s'en est bien sorti et il a réussi à finalement sortir du piège de Portland, alors que Akindele et Müller, je trouve, ont été les joueurs d'Orlando les plus muselés. On les a quasiment pas vus. Et finalement, c'est ça, c'est que Pereira, il avait plusieurs difficultés, Nani aussi d'ailleurs, là-dedans. C'est que non seulement il devait se sortir lui-même du piège défensif de l'adversaire, et en plus, après, il devait trouver des solutions parce que ses équipiers ne lui en offraient pas, parce qu'ils étaient contenus par la défense de Portland. Et donc Pereira, bah, il essayait d'en trouver, il en cherchait d'autres, et parfois ça a marché. Et malheureusement, ça pouvait pas aller jusqu'au bout, en tout cas malheureusement pour Orlando, parce que la toile défensive de Portland était quand même assez bien tissée. Très rapidement, pour terminer au sujet de ce match-là, on a parlé des vedettes. Est-ce que de votre côté, il y a aussi eu des performances, qu'elles soient remarquables ou décevantes, individuelles, qui vous ont marqué lors de cette finale?
Bon, pas tant, parce que, et on l'a expliqué au départ, en tout cas pour ma part, il y a quand même deux performances collectives intéressantes, globales, et qu'il faut prendre en compte sur ce match-là.
Bah, peut-être Chris Muller qui a pas. Bah, il a servi à rien, quoi, tout le long du
match.
Mais
il a fait un bon tournoi, par contre.
Et il a fait un bon tournoi, mais ça reste que. Enfin, à mon avis, de ce que j'ai vu de lui, je trouve que c'est un type qui est quand même très limité. Donc, Portland, en lui mettant un joueur sur le dos, bah, ils l'ont complètement sorti du match. Et puis, bah, ça fait une grosse différence du côté d'Orlando, parce que, comme je le disais, Nani avait personne sur le flanc gauche avec qui jouer. Donc, tout de suite, ça l'a effacé aussi. Puis, Chris Duval a fait quand même du bon boulot contre lui aussi. Donc, c'était difficile de se démener tout seul avec juste le ballon pour comme ami, quoi. Donc, c'est ça. Pour moi, Müller est passé à côté de son match, mais c'est pas non plus entièrement de sa faute. C'est une combinaison de choses qui font en sorte que, ben, ça pouvait pas fonctionner pour lui, quoi.
Ah, et puis Müller a été décrescendo, je trouve, depuis le début du tournoi. Il a bien commencé, puis au fil des matchs, surtout à la demi-finale, c'était déjà pas extraordinaire. Puis la finale, hein, on l'a plus beaucoup vu. Je rajouterais aussi, parmi les déceptions, moi, Kindley, j'en ai parlé tout à l'heure, et peut-être les deux arrières latéraux aussi d'Orlando. Juan, qui est monté beaucoup moins souvent que d'habitude, et Moutinho, qui lui a essayé, mais bon, qui était un petit peu fautif. Défensivement, quand Portland a marqué, et même s'il est pas mal monté, ses gestes finaux offensifs n'étaient pas géniaux. Bon, avançons dans l'émission. On a fait, alors vous savez, il y a toujours des remises de prix et tout, on laisse les remises de prix traditionnelles à tout le monde. On a créé quelques petites catégories un petit peu différentes, on va dire, et on va nommer nos vainqueurs donc pour cette deuxième partie d'émission. Et on va commencer par le joueur moins connu qui est devenu un joueur établi, et je vais commencer par donner le mien, pas par manque de politesse, mais simplement parce que je vais rester avec les joueurs qui ont participé à cette finale, et avec quelqu'un dont on n'a pas parlé encore, c'est Williamson de Portland. Bah, c'est Eric en
a parlé. Ah, c'est faux, j'en ai parlé.
C'est vrai. C'est vrai. Et je rajouterais parce que il joue la plupart du temps dans l'axe de l'entrejeu, et il a un rôle très 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 lourd à couvrir, parce que depuis le départ de Darlington Nagbe, Portland n'a pas encore trouvé son successeur. Et donc Williamson est en train de le devenir, et c'est pas simple, évidemment. Et c'est pas le même entraîneur, c'est pas le même système, et c'est pas le même travail, mais ça reste un numéro 8 quand même de haute facture. Au début du tournoi, je dois dire que je le connaissais pas, et à chaque match, peut-être un peu moins lors de la finale parce que Portland a vraiment beaucoup défendu, mais sinon à chacun des autres matchs, il m'a sauté aux yeux, et j'ai fait ah, il est pas mal. Et c'est un jeune joueur qui, pour moi, maintenant est devenu un joueur établi à Portland.
Ouais, ben, je vais rester dans la même veine, en passant du fils de William au fils d'Aaron, c'est-à-dire Aaronson de Philadelphie. J'ai un peu découvert Aaronson pendant ce tournoi. Il m'a bien plu. J'ai beaucoup aimé son énergie sur le terrain, sa détermination, j'ai envie de dire, même si ça ne lui sert pas toujours, parce que il a tendance à laisser beaucoup 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 d'énergie sur le terrain à chaque fois qu'il a l'occasion d'intervenir. Donc ça le pénalise parfois, surtout dans des conditions de chaleur extrême comme en Floride. Mais ceci dit, c'est pas pour rien qu'il y avait des dépisteurs étrangers qui surveillaient Philadelphie, hein. Il est en grande partie responsable de ça. Je pense que c'est un joueur qui est fort intéressant, qui a un avenir quand même assez brillant. Et petit fait à noter, Aaron n'a pas qu'un fils, il en a deux. Hein? Et si vous ne le saviez pas, Aaronson a aussi un frère qui joue dans la réserve de l'Union et qui fait presque aussi bien. Donc c'est à surveiller aussi de ce côté-là, parce que Aaronson ne vient pas seul, il vient avec son frère, et ça rend les choses intéressantes du côté de Philadelphie.
J'en perds mes mots devant tant de connaissances et tant d'esprit de la part de Monsieur Chenois. Et pour conclure sur Aaronson, voilà, s'il y a évidemment la passe décisive qui casse les lignes là contre Kansas City, je pense que justement, si les dépisteurs tombent là-dessus, il y a plus rien à dire. Il y a plus rien à dire sur un joueur de cette trempe là. C'est vrai que je te rejoins tout à fait, Eric, sur lui. Comme je suis parti dans une vague romantique, je vais aussi continuer sur la vague romantique et je vais juste mentionner Hazal, le gardien de Vancouver. Voilà, on peut pas parler d'une grande découverte, mais c'est quand même plus un petit coup de chapeau. Il a quand même découvert la lumière au fil de ce tournoi. Ça restera comme un moment quand même sympa de ce tournoi. Évidemment, c'est au détriment de Maxime Crépeau et de tout ce qui lui est arrivé, etc., etc., bien sûr. Mais je trouve ça sympa pour ce gardien-là, quand même, d'avoir eu son moment de gloire sur ce tournoi. Je trouve ça cool.
Ouais, attention, c'est pas juste sympa et romantique, là, ce qu'on a vu. Hein.
Non, je sais.
Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Hein.
S'il avait été nul, j'aurais pas non plus choisi.
Non, tout à fait. Mais je veux dire, ce qu'il avait à faire, il l'a très, très bien fait. J'aurais tendance même à dire mieux que certains autres gardiens de MLS. Donc, attention.
Ouais, c'était impressionnant en plus parce que lors de son premier match complet, il n'a quasiment eu aucun arrêt difficile à faire. Alors, évidemment, souvent, et puis Eric, t'es le premier à souligner, les jeunes gardiens qui commencent en MLS font souvent des bons arrêts et on les montre grâce à ça. Mais Hazal, c'était pas du tout ça et il a été très bon parce qu'il avait des sorties à faire, que ce soit des sorties aériennes, sortir dans les pieds, anticiper, jouer au pied aussi et toutes ces valeurs ajoutées de gardien, il les a montrées et il les a confirmées par la suite. Donc effectivement, il est complet et j'ajouterais, et peut-être que Chris Mavinga lui en a parlé quand Toronto et Vancouver se sont croisés à l'aéroport, que c'est comme ça que Thibaut Courtois a commencé et a eu la carrière qu'on connaît aussi très très jeune parce que le gardien titulaire a eu des problèmes, d'autres genres de problèmes et finalement ça l'a lancé à un très jeune âge. On peut évidemment espérer pour Hazal que la même suite de carrière, peut-être pas dans ces proportions-là, mais en tout cas autant de réussite. Alors, Aaronson, Williamson, et personne ne répond parce qu'il y a eu des absents lors de ce tournoi. C'est une de nos autres catégories, l'absent de Marc.
Mais oui, je vais encore rester dans le même secteur, même dans la même équipe, parce que pour moi, évidemment, il y en a eu beaucoup des absents, mais celui qui m'a embêté, c'est Cavallini. J'aurais voulu voir un Vancouver avec plus de force vive et notamment sa première force vive devant. Vancouver a fait un bon tournoi quand même, globalement. C'était quand même pas mal. Encore une équipe qu'on n'attendait pas forcément. Alors, ils sont pas allés jusqu'en demi, etc. Mais ils ont fait un tournoi honnête. Et le problème de Vancouver, c'est d'abord qu'ils avaient énormément d'absents. Et ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai toujours pas l'impression d'avoir l'occasion de voir ce que vaut vraiment Vancouver avec Mark Dos Santos. Il est arrivé, il a dû mettre les choses en place, évidemment la première année c'est compliqué et c'est pas à Montréal qu'on va rappeler que la première année c'est compliqué, mais donc
que des premières années à Montréal.
Et on est encore dans une première année et ce sera compliqué. D'ailleurs, j'en profite, allez lire donc l'entrevue de Louis Binks dans Québec Soccer de ce mois-ci qui vient de sortir, puis il le mentionne, il explique bien pourquoi c'est compliqué une première année quand tout un staff arrive. Bref, et donc l'année dernière, bon, c'était un peu particulier pour Marc Dos Santos et cette année, on s'était dit, ben voilà, moi, Marc Dos Santos, j'en entends que du bien tout le temps. Tous les joueurs qui l'ont fréquenté me disent que c'est un meneur d'hommes hors pair, que ceci, que cela. Il a quand même fait des belles choses dans les divisions inférieures, etc. Malheureusement, j'ai pas l'impression de pouvoir toujours apprécier le travail parce que il a jamais toutes les planètes ne sont pas alignées. Et une fois de plus sur ce tournoi, les planètes n'étaient pas alignées. Il y a eu une saignée dans son effectif. Il y a eu les blessés, etc. Donc, l'absent de Marc, c'est Cavallini. J'aurais même pu citer les autres à Vancouver, mais comme c'était quand même la tête de gondole canadienne du recrutement, j'avais envie de citer ce joueur-là.
De mon côté aussi, j'allais dire Cavallini, il était sur ma liste, mais je vais en prendre un autre à ce moment-là. Mais je rajouterais par contre, par rapport à Cavallini, que moi, ce qui m'a embêté aussi, c'est que c'est un nouveau joueur. Et donc, comme tout à l'heure, je parlais avec Orlando, l'intégration, et il y a aussi l'intégration sportive, évidemment, qui aurait pu être accélérée dans le cas de Cavallini. Et son absence, évidemment, n'a pas permis ça. Et l'absence de beaucoup de joueurs de Vancouver a aussi. C'était bien pour ceux qui les ont remplacés, mais d'un point de vue collectif, quand tout le monde sera présent, mais il y a des automatismes qu'il faudra retravailler. Le mien, c'est assez bateau comme choix, hein. C'est Joseph Martinez, évidemment. Atlanta, ça allait déjà pas très bien, et en plus, sans lui, ils ont pas réussi à trouver le chemin des filets. Donc, Atlanta, je pense que ils ont souffert, mais même avec lui, ça aurait peut-être pas été facile parce que j'ai l'impression que l'ambiance dans l'équipe est pas géniale. Et peut-être que sa réussite à Martinez permettait d'un petit peu nouer certains liens, et ça a peut-être permis de faire éclater au grand jour certains autres problèmes.
Ouais, ben moi je vais continuer dans la même veine, mais je vais pousser un petit peu plus loin. Mathias, pour moi, le grand absent, c'est Atlanta United. Carrément. C'est
Oui.
l'équipe au complet. D'ailleurs, il y en a un qui est même pas retourné à Atlanta après le tournoi. Donc voilà, c'est vrai. Voilà, Atlanta United pour l'ensemble de l'œuvre, je dirais que c'est le grand absent de ce tournoi.
Joli, joli. Allez, continuons dans l'originalité et à une catégorie qu'Eric nous a proposée, vu qu'il est parti sur son élan, c'est l'improvisation footballistique peu convaincante.
Ah, et il faut retourner un match de demi-finale entre Orlando et Minnesota, surtout sur la deuxième mi-temps, où malgré le fait que Minnesota devait absolument marquer et malgré le fait que Nanny avait décidé de n'absolument pas défendre ce jour-là, et la présence d'une piste d'atterrissage sur le flanc droit pour Minnesota, on a eu droit à Ethan Finlay et Dodson qui faisaient absolument, mais absolument n'importe quoi sur le flanc au lieu de profiter de l'espace qui y était. C'était catastrophique. À chaque fois que Dodson recevait le ballon, il levait la tête et faisait une passe en retrait. Mais 9 fois sur 10, c'était enrageant, mais enrageant. Et Finlay, c'était pas beaucoup mieux. Il courait dans des espaces, mais on se demandait si son objectif, c'était pas plutôt d'aller marquer un but au poteau de corner plutôt que de le mettre dans la cage. Franchement, c'était pas du foot, c'était de la danse contemporaine. Et c'est la raison pour laquelle cette catégorie est sponsorisée par la troupe de ballet de jazz, le Spasme de Saint-Jolite.
Et je rajouterais en plus pour appuyer ton point, c'est que j'ai été voir les statistiques sur Vision du jeu. Depuis le début de la saison, deux tiers des buts de plein jeu marqués par Minnesota sont passés sur le flanc droit. Donc d'habitude, c'est la grande force de l'équipe, notamment quand Metanier est là. Mais même en quart de finale, sans Metanier, Dodson avait été bon. Alors là, lors de cette demi-finale, comme tu le dis, c'était lamentable. Et Finlay, qui est extrêmement irrégulier, dont on vante toujours les bons matchs, mais dont on oublie souvent les mauvais, c'était un très mauvais jour. Bon, de mon côté aussi, hein, j'ai pas de parraineur pour mon moment extraordinaire, mais je vous renverrai à ce fameux but marqué par Vancouver contre San José après une vingtaine de minutes de jeu, alors que San José se rue à l'avant, que Vancouver récupère le ballon à, je sais pas moi, allez, on va dire à 20-25 mètres de son but, et que le joueur de Vancouver court vers le but de Vega. On se dit, quand est-ce qu'on va voir un défenseur de San José apparaître? Et on n'en a jamais vu! Et oui, le défenseur le plus proche était au moins à 80 mètres de son but. Mais non, on n'était pas à la 99e minute, alors qu'il reste une minute d'arrêt de jeu et qu'il faut absolument tout mettre devant pour espérer se qualifier ou pour espérer ne pas être éliminé. On était dans un match de poule après 20 minutes de jeu. Mais qu'est-ce qu'il a pris à San José? Le match au complet était fabuleux, je pense, parce qu'il y a eu plein de moments comme ça. Mais alors celui-là, il était quand même extraordinaire. Je pense que c'était farfelu. Alors autant San José nous a montré des choses assez amusantes et nous a donné bien du plaisir pendant ce tournoi, il faut le dire, et pas seulement du plaisir folklorique, autant ce moment-là, c'était quand même Le foot, je dirais d'une autre époque, à l'époque où on jouait peut-être en 1-2-7 et où il y avait des matchs à Rio Park et à Alexandra Park à Montréal.
Ouais, bah alors, entre nous, ça fait un partout, Mathias, parce que autant t'avais noté Cavallini sur ta liste, autant j'avais noté ce match-là, voilà, pour ce coup-ci. C'est vrai que le match, dans sa globalité, heureusement que la MLS conserve les vidéos, parce que tous ceux qui l'ont pas vu et qui n'ont pas vu les buts et qui ne... il faut aller voir ce résumé-là. Il y a eu plein de matchs pendant le tournoi, mais ce résumé-là, il est formidable. Il est formidable.
Et petite mention honorable à notre ami Tyler Miller qui s'enlève du but contre je ne sais plus qui aussi
Oui.
et le ballon qui rentre. Ça aussi, c'était particulièrement bizarre, disons-le comme ça. Oh là là.
Allez, cessons de rire parce qu'il y en a qui sont un petit peu plus frustrés. Et on a une catégorie pour eux aussi parce qu'il faut quand même souligner leurs efforts qui n'ont pas été récompensés.
J'avais une réponse globale qui avait plusieurs équipes dedans, mais je vais me concentrer sur Philadelphie. Je pense que Philadelphie a montré beaucoup de belles choses, a joué du bon foot, nous a fait écarquiller les yeux par moments. Et malheureusement pour eux, ben, ça s'est terminé en demi-finale. Et finalement, ils auront joué tout ça pour rien, si ce n'est que pour se préparer pour la suite de la saison. Donc, c'est un peu dommage de voir que finalement, ça n'a servi à pas grand-chose, quoi.
On peut ajouter Minnesota dans cette catégorie qui s'arrête au même stade et pour laquelle on avait aussi fait des parallèles. Il y a quand même des similitudes entre ces deux équipes, entre Minnesota et Philadelphie. Et c'est vrai que les deux, au vu de ce qu'elles ont montré, au vu de leur parcours et au vu aussi de leur statut au départ et de leur performance, auraient sans doute mérité un meilleur sort.
Et idem pour Orlando, en fait, hein, c'était ça un petit peu ma réponse de départ. C'était les trois équipes qui se sont retrouvées en demi-finale, mais qui n'ont pas gagné la coupe au final. Donc, c'était un peu ça, quoi.
Ah, de mon côté, je vais remonter un petit peu plus loin et j'hésitais entre deux équipes. Mon vainqueur est finalement Colorado, qui a disputé un premier tour de très bonne facture, qui aurait pu se retrouver avec 6 points. En premier match, ils sont tombés contre une très bonne équipe de Salt Lake qui a joué son meilleur match du tournoi et qui est peut-être une des équipes les plus convaincantes de la première journée. Mais après, au deuxième, ils se sont fait avoir par Kansas City. En fait, non, ils ne se sont pas fait avoir par Kansas City, ils se sont fait avoir par l'arbitrage vidéo qui a vraiment été complètement en leur défaveur, où c'était à mes yeux complètement n'importe quoi. Tout à l'heure, je disais que l'arbitrage avait globalement été bon et qu'il y avait eu des exceptions. Ça, c'est l'exception la plus notable. Et lors de leur dernière rencontre de groupe aussi, ils auraient pu s'imposer. Finalement, ils ont été contraints au match nul. Peut-être qu'avec 3 points, Colorado serait qualifié. Et lors de leurs deux dernières rencontres, même la première, ils n'ont pas été mauvais. Lors des deux suivantes, ils ont quand même été relativement bons. Et finir avec 1 point, c'est quand même. Loin, loin, loin de ce qu'il méritait. Je trouve que cette équipe de Colorado était pas mal du tout. Et mon autre prétendant, c'était Houston. Houston qui aurait pu se qualifier, qui n'a pas été mauvais, qui a d'ailleurs commencé par un match nul 3-3 contre le LAFC et qui finalement en encaissant un but en toute fin de rencontre contre le LA Galaxy a été éliminé. Et ce qui n'a pas qualifié le LA Galaxy, mais ce qui a qualifié New York City, qui a après éliminé Toronto. Donc peut-être que les anti-Toronto sont très contents finalement de ce résultat entre Houston et le LA Galaxy. Mais Houston aussi a été mal payé et Houston fait partie. Il y a des équipes qui se sont retrouvées en huitième de finale, on se demandait ce qu'elles faisaient là, mais je trouve que Colorado et Houston, eux, auraient pu par contre prétendre à aller plus loin dans ce tournoi. Alors là, on a parlé des équipes, je viens de parler des équipes qui n'ont pas franchi le premier tour et qui auraient peut-être mérité d'aller plus loin. Là, on va parler probablement de celles qui n'ont pas franchi le premier tour et ne méritaient pas du tout de le faire. Ce sont les équipes Jambes de Bois.
Les équipes Jambes de Bois, ça m'a inspiré. Peut-être mon côté tacleur maintenant, à force de fréquenter Monsieur Chenois, voilà. Hein, mais je trouve que le Galaxy est inquiétant. Je trouve que le Galaxy est inquiétant parce que c'est devenu une équipe très moyenne, finalement, le Galaxy. Déjà l'année dernière, alors qu'ils ont quand même un effectif et qu'il y a quand même des réminiscences du Grand Galaxy et des paillettes et de tout ce qu'on veut. Ils nous ont quand même ramené du monde. Alors évidemment, Chicharito n'était pas là, etc. Mais je veux dire, tous les ans, le Galaxy, on a quand même notre dose de paillettes. Sauf que l'année dernière, bon, ils sont allés jusqu'en demi-finale de conférence, puis c'était quand même globalement moyen malgré Zlatan. Cette année, leur début de saison est pas bon. Leur début de saison est pas bon. Et là, ils ont été totalement fantomatiques. Ils en ont pris même 6 contre le LFC. Alors, je veux dire, bon, on parle du derby Montréal-Toronto, mais là, c'est encore plus un derby quand même, en prendre 6. Alors, je sais bien que c'est encore un peu récent comme derby, mais tout de même. Bon, ils ont été, ils ont enchaîné les contre-performances et c'était déjà un peu le cas au tout début de la saison, en mars, quand la saison a pris, parce qu'ils avaient perdu quand même des points contre Chicago, ils ont perdu des points ils ont perdu contre Toronto. Bref, il y a eu quand même des résultats négatifs. Je me demande ce que Barros Schelotto va pouvoir faire avec le LA Galaxy. Je me demande quelle sera la suite pour ce club? Est-ce que les transferts sont tout à fait terminés du côté du Galaxy? On entend évidemment souvent des rumeurs dès qu'il s'agit de Los Angeles, même si en ce moment c'est plutôt à Miami que ça s'agite. Mais vraiment, le Galaxy m'a fait une petite impression sur ce tournoi. Et en regardant un petit peu, bah, en fait, ça fait quand même quelques mois que le Galaxy me fait une petite impression. Donc voilà, les jambes de bois du Galaxy, on verra ce que ça donne par la suite.
Au risque de perdre mon titre de tacleur officiel, le coup franc, je n'ai pas vraiment d'équipe chambre de bois.
Bon, bah alors je vais y aller avec la mienne. Hein. C'est vrai que les Galaxy, pour juste rajouter un petit truc à ce que Quentin vient de dire, et là, c'est là qu'on voit peut-être que si c'est un derby ou non, c'est que le bonheur des uns fait le malheur des autres dans un derby, et pas seulement sur le terrain, c'est que les Galaxy risquent de perdre de la visibilité. Et le LFC en prendre à son détriment, et ça c'est assez mauvais évidemment, puisque les deux clubs sont en concurrence, alors que par exemple si Montréal perd contre Toronto, ça va pas faire beaucoup plus de supporters de Toronto et moins de supporters de Montréal. Donc ça aussi c'est un sujet d'inquiétude pour le LA Galaxy, auquel j'ai pensé pour mon équipe de jambes de bois. Finalement j'ai choisi DC United parce que on n'a rien vu, ils nous ont rien montré pendant ce tournoi. C'est plus compliqué que ça, ils ont rien foutu. Ils aussi, ils ont marqué des buts qu'on leur a offerts en cadeau sur un plateau. Sinon, c'était, je vais même pas dire mauvais, c'était rien, de bout en bout. Si vous n'avez regardé aucun match de DC United, vous n'avez rien raté. Et si vous avez juste regardé celui de Montréal contre DC United, vous avez vu probablement votre équipe, parce qu'il y a beaucoup de chances, si vous nous écoutez, vous êtes plus supporter de Montréal que de DC United. S'imposer, vous avez été content, bah tant mieux, parce que finalement, ce qu'il y avait en face, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de talent individuel dans cette équipe-là, mais on va dire qu'il y a des bons ingrédients sur la table, mais il manque un chef cuisinier capable de les mettre tous ensemble, et puis il manque l'ingrédient magique qui, comme dans les dessins animés, s'anime, là, comme dans... On était chez Disney, comme dans Fantasia ou dans Merlin l'Enchanteur, et qui va remettre tous les ingrédients, les autres ingrédients ensemble et leur donner vie. Hein. Ça a été Wayne Rooney pendant un certain temps qui arrivait à faire ça, mais maintenant, les ingrédients sont redevenus inanimés, et cette équipe, malheureusement, est assez pitoyable à regarder. Bon, on a été difficile, on a été un petit peu sévère, redevenons gentils avec la catégorie suivante, et le blason qui a été redoré.
Eh bien oui, hein, voyez comment je suis négatif et tacleur et troll, hein? Regardez, on a encore ici l'exemple, je n'ai pas de pierre à lancer à qui que ce soit, et je parle de blason redoré maintenant. Bon, juste une parenthèse comme ça. D'ailleurs, cette catégorie nous est présentée par la bijouterie Les Joyaux Noël de Kingston. Et Mathias, je te vois déjà poser la question, Kingston en Jamaïque ou Kingston en Ontario? Bien, c'est bien en Ontario, mais... ça m'amène quand même à parler de la Jamaïque, parce que je veux te parler, Mathias, d'André Blake, le gardien de Philadelphie. Oui, on dirait que j'aime bien Philadelphie, hein, contrairement à toi qui déteste DC United. Moi, j'aime bien Philadelphie.
Mais moi aussi, j'aime bien Philadelphie.
Et
J'arrête pas de le dire chaque semaine.
Tout ça pour revenir à notre ami André Blais qui avait connu des ratés il y a deux saisons de cela et l'année passée était quand même revenu sur une pente ascendante et puis c'est pas un mauvais gardien. C'est pas le meilleur gardien du monde non plus, mais il faut pas s'énerver avec ça. Mais j'ai trouvé que sur ce tournoi-là, notre ami André a confirmé son retour en bonne forme. Pour moi, c'est probablement un des meilleurs gardiens du tournoi. Il a fait de très très belles choses, très peu de mauvaises choses aussi, donc ça se balance bien. Je l'ai trouvé très bon et j'ai hâte de voir la suite dans son cas, parce que avec un bon gardien, avec une équipe qui se tient, avec un système qui fonctionne et avec des coéquipiers qui s'entraident, des équipes peuvent aller loin. Donc à surveiller du côté de Philadelphie.
Mon vainqueur dans cette catégorie-là, c'est Adrian Heath, entraîneur de Minnesota, qui n'avait peut-être pas forcément un blason terni par rapport à ce qui était au début, mais je trouve qu'il reçoit trop rarement le mérite qui lui revient. Et là, il a donné des leçons de coaching à Matias Almeida, qui quand même nous a fait un bon tournoi avec San José, même si San José est un petit peu folklorique, mais bon, San José, c'est un Minnesota désorganisé, parce que c'est deux équipes que je trouve qui se ressemblent beaucoup, mais il en a aussi donné une à quelqu'un qui a beaucoup plus de renommée, on va dire, dans le milieu de la MLS, c'est notre ami Porter, l'entraîneur de Columbus, parce que Minnesota a aussi trouvé le moyen de museler Zela Ryan, ce qui n'est pas donné à tout le monde, et donc Minnesota tactiquement a été très intéressant lors du tournoi, et je pense même la demi-finale, en fait, c'est à cause du couple de danse classique dont Eric a parlé tout à l'heure, que l'équipe a été coulée, et pas forcément en raison du plan de match, mais sur le terrain, si les joueurs répondent pas aux directives, font pas ce qu'il faut, ben l'entraîneur parfois il a pas beaucoup de solutions et c'était un petit peu le cas lors de cette demi-finale, mais en tout cas Adrian Heath, c'est un entraîneur que j'aime beaucoup, je le souligne assez régulièrement aussi, qui veut offrir du jeu positif et tactiquement il a montré aussi de belles choses lors de ce tournoi et il a fait taire certaines critiques, notamment des critiques dans sa ville, dans son club, et je trouve que c'est bien.
Alors, d'abord, je voudrais quand même souligner le bol d'air qu'a dû prendre notre ami Eric Chenois, parce que cet arrêt d'une semaine de coups francs, il nous revient dans un état, mais on ne le reconnaît plus. Hein, on ne le reconnaît plus. Donc, je voudrais quand même souligner ça. Et pendant qu'on est dans les bonnes nouvelles, eh bien, moi, je vais citer Columbus. C'est pas que leur étoile était ternie, mais en tout cas, t'as mentionné Zela Ryan, Mathias. On commence à le découvrir. Ben maintenant. On l'a découvert, on peut dire, sur ce tournoi-là. Vraiment, c'est sûr qu'il venait avec de grosses attentes, évidemment. Il y a eu un transfert quand même important, il y a eu de l'argent, etc., qui est en jeu dans tout ça. Donc, évidemment, il y avait des attentes autour de lui. Mais je trouve qu'il rayonne vraiment à Columbus et que l'équipe autour de lui commence à bien tourner. Ils ont un bel effectif, Columbus. Et ça a été une agréable surprise pour moi. Enfin, pas vraiment une agréable surprise, en tout cas, une équipe agréable à suivre. Au long de ce tournoi.
Ouais, Zela Ryan, c'est vraiment une des individualités à regarder de près pour la suite de la saison régulière. Ça, c'est une évidence. Bon, là, on a un peu perdu les bonnes habitudes. Et Eric, tu fais un peu trop le fanfaron, mais il ne faut quand même pas oublier que tu nous as aussi donné la catégorie oubliette. Hein, ça vient de toi, alors je te laisse la parole et redevenir le troll que l'on connaît.
Ah ben non, c'est pas pour troller du tout. Hein. C'est plutôt pour... Pour rappeler à nos auditeurs l'existence de deux clubs qui ont malheureusement disparu il y a environ un mois, c'est-à-dire le FC Dallas et Nashville SC.
Ils ont réussi
d'ailleurs. Ils réussissent aujourd'hui, en ce moment même. Donc, bravo à eux d'avoir réussi à vaincre ce satané virus. Donc, je les salue. Et voilà, je voulais simplement rappeler à tout le monde qu'ils étaient encore présents. Et malheureusement, pour cette catégorie, je n'ai pas trouvé de commanditaire. Il n'y avait plus personne disponible.
Ah, au fond de mon oubliette, il y a quelqu'un qui y a sauté quasiment tout seul à pieds joints. C'est Chicharito qui, vu les absences, pouvait être une des vedettes du tournoi. Et malheureusement, il l'a été en ratant un penalty, en ne faisant pas la différence avec son équipe et en finissant blessé. Comme le LA Galaxy au complet d'ailleurs. Donc ça a pas tourné, lui non plus. Donc bon ben en espérant que la boule de Fort Boyard vienne ouvrir les portes, parce que finalement c'est peut-être de ça que le Galaxy a besoin. Hein. Je sais pas moi, une tête de tigre ou je n'en sais rien, ou du père Foura, mais il faut quelque chose d'un petit peu qui sort de l'ordinaire et qui sort de notre temps pour aider cette équipe à ressusciter, comme Quentin tu l'as dit tout à l'heure.
Dans la catégorie oubliette, on l'a déjà mentionné un peu plus tôt, je ne pensais pas qu'on le mentionnerait, mais un qui y est désormais, c'est Franck Debourg. Je pense que lui, malheureusement, c'est tout son passage qui va passer aux oubliettes à Atlanta. Comme dans ses clubs précédents aussi, il faut quand même le dire, malheureusement pour lui, même si ça a été un immense joueur, c'est sûr que c'est plus compliqué. Donc voilà, une pensée à Franck Debourg dans les oubliettes.
Avant-dernière catégorie de notre liste, le coup de cœur extra-sportif. Et là, je vais y être, on va être, enfin, de mon côté, je vais être un petit peu plus sérieux. Et je vais y aller avec le fait que tous les matchs du tournoi, sans exception, ont été diffusés sur TSN. Et je tiens vraiment à les féliciter. C'était très bien. On savait qu'on pouvait mettre cette chaîne-là. Souvent, en plus, c'était sur le même TSN. Donc, c'était facile. De temps en temps, ça a changé. Mais souvent, c'était sur TSN 4 ou TSN 1. Et bah oui, tu veux regarder le tournoi MLS is back, tu sais que le match va être diffusé sur telle chaîne, c'est plus facile pour tout le monde, tu sais que tout va être diffusé, et c'est rare que quelqu'un donne tout. Aux États-Unis, personne n'a tout donné, puisque c'était partagé entre ESPN et Fox, et au Canada, en français, TVA Sport n'a pas tout diffusé non plus, donc TSN a été la seule chaîne, en tout cas sur le marché de la MLS, à diffuser chaque match sans exception. Et c'était du travail de qualité en plus, donc bravo, et c'était chouette, et il faut aussi le souligner, ce genre de bonnes choses.
Ouais, le coup de cœur aussi, moi, enfin en tout cas le coup de chapeau, c'est quand même globalement pour la MLS et pour ses équipes de communication, parce qu'il a été possible de travailler quand même pendant ce temps-là. On a eu des photos, on a eu des vidéos, on a eu quand même accès à des joueurs, etc. Donc il y a quand même, enfin évidemment de façon non physique, hein, on s'entend, mais je veux dire, en tout cas il y a quand même eu un suivi très serré et des possibilités de travailler. Ça a dû demander quand même énormément d'organisation et d'efforts, même si le tournoi ça a posé des questions au départ, mais en tout cas d'un point de vue médiatique et ça a été possible de travailler, et je voudrais aussi souligner ce travail-là des équipes de la MLS.
Je vais simplement souligner la réussite du tournoi dans son ensemble. Chapeau à la MLS d'avoir réussi à organiser tout ça. Et sans accroc, il n'y a pas eu de problème, à part évidemment les problèmes reliés à la COVID au début, quand je le rappelle, Dallas et Nashville ont été éjectés avec raison, hein, faut quand même le reconnaître. Mais pour la suite du tournoi, qui était quand même, c'était une grosse entreprise, là, ils ont réussi à organiser ça. Je vais pas dire de main de maître, mais presque. Donc c'était réussi, ça roulait bien. On n'a pas entendu d'écho négatif de l'organisation comme telle. Je pense que les équipes semblent avoir aimé leur participation. Je pense que c'est le coach de Philadelphie qui proposait même de faire ça chaque année. Bon, je sais pas, il y avait peut-être quelque chose dans son café ce matin-là, mais bon, tout ça pour dire que ça a été réussi dans l'ensemble. Alors chapeau.
Ah, d'ailleurs, les critiques du début de tournoi, ou ceux qui se disent oh le tournoi n'aura jamais lieu jusqu'au bout, etc., on les a vite plus entendus, et tant mieux, et tant mieux. Et ça appuie ton point, Eric, ça prouve que ça a été organisé de main de maître, et je tiens aussi à souligner et à féliciter la MLS pour son très bon travail en général et en communication aussi, comme Quentin l'a souligné. Bon, la dernière catégorie, on va quand même parler un petit peu de notre équipe de Montréal, et le choix de Thierry Henry le plus bizarre. Il ne manque pas de possibilités là-dessus, et je vais commencer avec le fait de revenir à une défense à 4. Je ne vais pas aller dans les détails, juste si vous vous souvenez de notre émission de présentation du tournoi où on parlait en long et en large de l'impact, on se disait tiens, il y a un système, il y a quelque chose qui est en place derrière avec trois défenseurs centraux, ça marche bien. Quand on a parlé du dernier match contre DC United, on a dit ah, ça marche mieux avec trois défenseurs centraux qu'avec deux. Et entre temps, il y a eu des choix de revenir à quatre au lieu de travailler quelque chose qui dans l'ensemble a beaucoup, je pense, d'avantages pour cette équipe montréalaise avec l'effectif qu'il y a et avec les plans d'avenir et la façon dont on veut jouer. Donc bah, j'ai pas compris cet essai qui en plus n'avait pas été fructueux pendant la période de préparation. Donc j'espère que ce sera vite rangé aux oubliettes avec Franck Debourg.
Il y en a eu des choix bizarres hein, de Thierry Henry. En fait, le fait même que cette catégorie existe en soi est bizarre parce qu'on s'y attendait tellement pas au départ. Et finalement, il y en a eu beaucoup des choix bizarres. Et bon, bah alors évidemment, c'est difficile de passer à côté du choix bizarre de l'arrière droit ou des multiples choix d'arrière droit, devrais-je dire, parce que même s'il n'y a pas eu tant de matchs que ça de l'impact, il y a quand même eu beaucoup d'arrière droit au cours des matchs qui ont été joués en Floride. Donc le choix le plus bizarre, bah j'ai envie de... Mon cœur balance entre Chaume et Piette. Chaume et Piette arrière-droit. C'est encore quelque chose que j'ai du mal à concevoir, à comprendre. Alors, évidemment, il y avait eu des explications. On a essayé d'en trouver, mais ça restera quand même une option bizarre.
Oui, eh bien, une autre catégorie négative qui ne vient pas de moi, je le souligne. Donc, mais j'abonde dans le sens de notre ami Quentin avec ce choix d'arrière-droit, effectivement, auquel Samuel Piette a été muté à un moment donné. Et c'est la décision bizarre de Thierry Henry, c'est d'utiliser Samuel Piette à toutes les sauces, dans toutes sortes de rôles qui ne lui sied pas. Je comprends pas. Pourquoi on s'acharne à faire jouer un joueur qui n'a pas les qualités requises pour jouer à tel ou tel poste et qu'on le laisse là comme si, je sais pas, comme si c'était obligatoire finalement. Hein. Même qu'en cours de match, on l'a vu descendre quelques fois, mais c'était très, 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 très tard. Comme si, je sais pas, comme s'il y avait un quota de minutes à remplir dans son contrat ou quelque chose du genre. Je dis pas que c'est le cas. Hein. C'est surtout pour rigoler un peu, mais bizarre d'attribuer le totem d'immunité à Samuel Piette continuellement comme ça, alors que finalement, je pense qu'on en a fait la preuve à plusieurs reprises dans l'émission et on en parlera certainement encore. C'est difficile de justifier sa présence dans le 11, donc qu'il y soit, qu'il y reste et qu'il n'en bouge plus, c'est de plus en plus bizarre et étrange.
Ah, ceci met fin à différents prix originaux, j'espère, en tout cas à vos yeux. On espère que vous avez aimé ça, mais l'émission n'est pas terminée. Puisqu'on parle des internationaux canadiens, intéressons-nous à la pépite Jonathan David, très en avance au rendez-vous de ses promesses et dont l'heure du transfert était venue pour ses vacances. Il ne devrait peut-être même pas changer d'adresse, puisque l'île est à une demi-heure de Gand et qu'on va plus vite d'une ville à l'autre, que ce soit en voiture ou en transport en commun, que de Verdun à Montréal-Nord. Alors, ce transfert est évidemment notre coup franc de la semaine. Et pour commencer à en parler, et je ne peux pas céder la parole à quelqu'un d'autre que Quentin, grand supporter du LOSC. Sinon, évidemment, il va faire la grève pendant quelques mois et ça va être un petit peu embêtant.
Un coup franc dans la lucarne, monsieur. Dans la lucarne, ce transfert, en pleine lucarne. Mais oui, évidemment, je suis content. Et je vais vous dire, je suis content pour les deux parce que c'est un mariage de raison qui peut devenir un véritable mariage d'amour, cette union entre le LOSC et Jonathan David. D'abord parce que la place est libre pour Jonathan David. Donc le LOSC est très heureux de voir Jonathan David arriver. C'est simple, le LOSC avait perdu ses deux attaquants, Loïc Rémy et Victor Osimhen. Loïc Rémy qui devait partir en Italie à Benevento, finalement ça s'est pas fait pour une histoire de médical. Mais en tout cas, il n'est plus là. Osimhen, qui jouait à Charleroi en Belgique il n'y a pas longtemps. Le LOSC aime bien, Lille, c'est tout près de la Belgique, et le LOSC aime bien faire ses courses en Belgique, et qui a été revendu à Naples, pour une petite fortune d'ailleurs. Donc, ils étaient tout à fait décimés en attaque, et pour Jonathan David, c'est un bénéfice, parce que d'abord, il y a quand même de la place pour qu'il joue, ce qui est quand même très important pour un joueur de son âge, et il est attendu, il a des responsabilités, il va avoir des responsabilités, c'est sûr. Et en plus, le LOSC a une politique qui fait que ils veulent faire de l'argent, ils ne s'en cachent pas. Le LOSC a été racheté il n'y a pas longtemps par un investisseur qui a emprunté énormément, même la totalité de son argent pour racheter Lille, et il doit rembourser évidemment. Et il a misé là-dessus sur le trading, c'est-à-dire acheter des joueurs à bon prix et les revendre encore meilleur prix. Et jusqu'à présent, ça marche bien. Et pour cela, il faut évidemment que ces joueurs soient entourés, et c'est ce qui se passe. Là, il y a Yilmaz qui est arrivé de Turquie, qui est quand même un membre très important de l'équipe de Turquie, qui a énormément d'expérience, 35 ans, qui va aider Jonathan David. En tout cas, c'est son statut aussi, c'est d'entourer Jonathan David pour le mettre dans les meilleures dispositions. Donc ça veut dire que Jonathan David va être mis dans les meilleures dispositions pour réussir, et le LOSC a tout intérêt à ce que ça fonctionne pour Jonathan David. Donc c'est un mariage de raison qui peut forcément tourner comme un mariage d'amour. Et d'ailleurs, le LOSC fait ça pour toutes les lignes, puisque là, normalement, leur défenseur central Gabriel devrait être vendu, un jeune Brésilien qui est arrivé à 17 ans à Lille, qui a une vingtaine d'années et qui va partir pour une somme autour de 30 millions d'euros, et qui avait été entouré durant tout son passage à Lille par José Fonte, qui est un vétéran de la défense portugaise, champion d'Europe en 2016. Donc, vous voyez, il y a tout cet équilibre d'effectifs fait que les jeunes arrivent à s'épanouir, et les vieux briscards à transmettre leur expérience et tout ça pour des résultats assez convaincants, puisque Lille a fini quatrième l'année dernière, va faire la Ligue Europa, ce qui est une épreuve aussi intéressante pour David. Ils avaient fait la Ligue des Champions cette année. Donc voilà, c'est un joueur ambitieux, Jonathan David, qui rejoint un club ambitieux. Et à mon avis, ça va très très bien fonctionner.
De mon côté aussi, c'est un coup franc en pleine lucarne, mais qui n'a pas pris la trajectoire attendue forcément, parce que Jonathan David, on l'imaginait davantage se retrouver en Allemagne. D'ailleurs, il en parlait lui-même il y a quelques mois, puis finalement Lille est arrivé. Peut-être que justement le fait de ne pas devoir déménager, en tout cas il va peut-être déménager, hein, mais de rester vraiment tout près et finalement de pouvoir garder certaines habitudes, ça va aussi l'aider, ça va en tout cas faciliter son intégration extrasportive, ça c'est une certitude. Et en plus, je pense que c'est aussi un bon choix pour les deux. Du côté de David, ça va être intéressant parce qu'il franchit un palier, il va dans un championnat qui est peut-être un petit peu moins ouvert que le championnat d'Allemagne. Le championnat de France, c'est pas le championnat le plus spectaculaire. Donc c'est clair qu'en tant que joueur offensif, il va devoir monter de un ou deux crans. Et ça, c'est intéressant aussi, et c'est bon pour lui et aussi pour l'équipe nationale canadienne, parce que je pense que ça va élargir encore plus sa palette. Alors maintenant, Quentin, tu le comparais à Osimhen. Je pense qu'il a été vendu pour 4 fois son prix. Donc tu me diras si je me trompe, 4 fois son prix d'achat. Donc si c'est le cas pour David, ça nous ferait 120 millions d'euros, dans quelque chose comme 180 millions de dollars. Avec les primes, on pourrait arriver à 200 millions de dollars. C'est gigantesque.
Plus, beaucoup plus Osimhen, parce qu'il avait été acheté 12 millions et demi et il a été vendu pour 70 plus 10 de bonus. Donc sur ce tarif là il y a quand même 10% qui doivent revenir à Charleroi, soit 7 millions. Donc en tout, l'investissement sur Osimhen, ça a été 19 millions.
Quand même, c'est pas mal, hein. Donc on verra pour David. Je veux rajouter un petit peu aussi certaines choses par rapport à son profil, parce que tout le monde pense, c'est un attaquant, c'est un buteur. Ce n'est pas que ça. Et à Gand, plus le temps a évolué, plus il jouait bas. Il n'a pas fini en défense, hein. C'est pas comme Alfonso Davies, mais il était plutôt derrière les attaquants, avec quelqu'un qui portait l'attaque. C'était pas à lui de faire le jeu non plus, c'était pas un numéro 10, et c'était intéressant parce que justement il profitait de cette position pour souvent s'infiltrer. Il était très 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 présent sur les centres. Gand, c'est une équipe qui jouait très haut, donc dès que le jeu était, on va dire, à la hauteur du grand rectangle adverse ou plus haut, et passé par les côtés, David se montrait présent. Gand, c'est une équipe qui aimait beaucoup dominer l'adversaire, qui jouait balle au pied, qui jouait dans le camp de l'adversaire, Et donc, ça aussi, c'était une de ses forces. Jonathan David, c'est quelqu'un qui est présent du début à la fin de chaque match. Il marque beaucoup dans les premières minutes. Il est encore plus fort en fin de rencontre. Et vu qu'il jouait très bas, un peu plus bas, ça lui permettait, et ça, c'est aussi une de ses forces, il a beaucoup impressionné, de faire beaucoup plus de retours défensifs, de contribuer. Il y a certains matchs où moi, j'ai vu des contre-attaques adverses et le gars qui se retrouvait en dernier homme pour Gand, alors qu'il était impliqué dans l'attaque au début de l'action, c'était David qui se repliait. C'était très très impressionnant. Et quand l'adversaire attaque, il est très très attentif aussi. Et comme il n'est pas le dernier homme, il n'est pas le gars devant et il n'est pas le gars qui doit être à la réception, il fait parler une de ses autres qualités, c'est la vitesse d'exécution. Et à ce moment-là, il est bon, il donne beaucoup de passes décisives sur les contre-attaques. Et donc, ça fait de lui aussi un joueur qui est encore plus complet que lors de son arrivée en Belgique et même que lors de sa première saison à Gand, qui était déjà très bien. Et donc, David, il a beaucoup progressé et je pense qu'il va encore avoir une marge de progression dans un championnat un petit peu plus relevé, évidemment, que le championnat de Belgique est quand même assez bien en Europe. Donc, je pense que ça va être gagnant-gagnant pour tout le monde.
Et une mention quand même de l'entraîneur du LOSC, Christophe Galtier, qui va avoir un rôle très important et ça va être bénéfique aussi pour l'équipe nationale, bien évidemment. Mais Christophe Galtier, c'est un entraîneur qui a une très très grosse cote en France et qui a sorti énormément de joueurs. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Aubameyang. Aubameyang qui, en début de carrière, a pas mal balbutié. Il est allé un peu à droite, à gauche, à Milan. Il a été à Lille aussi, d'ailleurs, mais sans jamais vraiment s'imposer. Et c'est une fois qu'il est arrivé à Saint-Etienne, au moment où justement Christophe Galtier entraîné Saint-Etienne, qu'Aubameyang a vraiment commencé à percer. Après plusieurs années, il a quand même percé assez tard, Aubameyang, et c'est vraiment Christophe Galtier qui a été un détonateur dans sa carrière. Et donc évidemment, on souhaite la même chose à Jonathan David, mais voilà, outre Aubameyang, il y a quand même eu beaucoup de joueurs qui sont passés entre les mains de Christophe Galtier, qui a toujours su faire des miracles là où il est passé.
Eric, ton coup franc, il va où?
Oh, bah oui, c'est facile, hein. C'est facile pour vous, là. Il y a l'expert du LOSC, l'expert du championnat belge, et puis après moi, je dois dire quelque chose là-dessus. Bah oui.
Toi, t'es l'expert de l'équipe nationale canadienne.
Alors c'est, non, pas du tout, mais bon, enfin. Bref, c'est un coup franc droit dans le mur. Il aurait dû aller en MLS, à Montréal, parce qu'on avait de la place pour lui. Voilà. C'est dit. Ça aurait été bénéfique pour sa carrière. Apprendre avec Thierry Henry. Et attention, parce que ce que je vous dis là, on me l'a dit. Hein. Donc après...
Ah, on te l'a dit, vraiment, c'est
On me l'a dit quand il était encore à Gand, avant toute cette histoire de transfert pour aller à Lille. Il y a quelqu'un qui m'a interpellé à un moment donné sur Twitter. Je ne le nommerai pas, de toute façon j'ai oublié son nom et c'est peut-être mieux ainsi. Mais on m'avait expliqué en long et en large que c'était plus logique pour sa carrière de passer par Montréal où il pourrait apprendre à côté de Thierry Henry et blablabla. Bon, enfin bref.
Oui, évidemment.
Tout ça pour dire que voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter sur ce que vous avez dit parce que vous avez couvert le sujet de façon experte et fascinante. Alors merci à vous de m'avoir diverti pendant de longues minutes et bonne chance à Jonathan David. Jonathan David qui, en passant, est francophone, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Donc voilà, un petit aparté comme ça.
Bon, on espère vous avoir diverti pendant de longues minutes encore plus qu'en parlant de Jonathan David. Si vous le souhaitez, envoyez un petit message sur Twitter à QParisis pour lui demander de faire une émission tout seul, spéciale LOSC. Je suis sûr qu'il la fera avec plaisir.
Le podcast du LOSC avec Quentin.
Oui. Ouais. J'ai assez de travail comme ça, je vous remercie, mais ça me fait toujours plaisir de parler du LOSC occasionnellement, mais après, le problème, vous savez ce que c'est que quand on regarde avec les yeux de l'amour, on n'est plus aussi pertinent parce que malheureusement, on voit tout par ce prisme. Ma pertinence, quand même, quand je parle aux gens, j'essaye d'être pertinent, je pourrais, à part transmettre de l'amour quand je parle du LOSC, je n'ai rien à transmettre.
Bon, allez, les yeux de l'amour, c'était l'épisode, je ne sais pas combien, on ne va pas arriver au même nombre que les feux de l'amour, malheureusement, mais bon, c'est la conclusion vraiment bâtarde de cette émission de la semaine qui, on l'espère, vous a quand même diverti, amusé et fait réfléchir et refait un bon tour de ce tournoi MLS Is Back. En tout cas, le prochain épisode de l'émission Coup Franc, ce ne sera pas pour ce lundi, vu que l'actualité est un peu plus calme et que cette semaine, on est sorti plus tard. Donc, vous aurez un peu plus de temps pour l'écouter. En plus, y a, à part Dallas Nashville, et on ne va pas faire une spéciale Dallas Nashville la semaine prochaine, il n'y a pas beaucoup de MLS à se mettre sous la dent. On espère que la semaine prochaine, on aura surtout des nouvelles calendriers des clubs canadiens de MLS. Et on vous tient au courant, évidemment, pour la suite, pour la suite de nos émissions. C'est sûr qu'on sera de nouveau à l'antenne très bientôt. On vous donnera tous les détails sur Twitter. Vous pouvez nous suivre, donc vous savez, Qparisis, Eric Viking et Coup Franc MLS. C'était donc Coup Franc avec Mathias Van Alst et Eric Chenois et Quentin Parisis. N'oubliez pas non plus que vous pouvez utiliser le mot-clé Coup Franc pour interagir avec nous. Et on se donne rendez-vous bientôt. Salut tout le monde!